Précédemment, dans les consultations extraordinaires.
Par le Nil, quelqu'un a dérobé le livre de Thoth.
Madame, mademoiselle, Karl Gustav von Schoffol, pour vous servir.
Mon œil devenait l'œil d'Héru, doté d'une grande puissance magique.
Où est ton œil, puissant roi?
Par les larmes d'Isis, je l'ai perdu!
Mes rêves, mademoiselle Chamberlain, c'est par mes rêves qu'un esprit s'est connecté au mien et qu'il y a infusé sa tristesse pour amplifier la mienne.
À mon avis, c'est l'un ou l'une des participantes de la conférence des thérapies intégratives du mois de novembre.
Je n'ai pas encore dit mon dernier mot.
Mais le contraire m'aurait déçu, docteur, croyez-le bien.
Des cahiers de plumes et la compagnie Raymond Crocotte présente... Les consultations extraordinaires de Belladone Mercier, psychologue des dieux. Saison 1, épisode 7, Bring Me to Life. Première partie, Bittersweet Symphony. Une semaine s'était écoulée depuis que Belladone Mercier avait défié son adversaire, le docteur Karl Gustav von Schoffel. Et ce soir-là, au tout début de janvier, son ennemi se trouvait précisément là où elle l'avait prévu, au moment même qu'elle avait prédit. Élégamment vêtu et toujours muni de ses verres colorés dissimulant des yeux verrons dérangeants, il se tenait juste devant la grande pyramide de verre illuminée. Bien entendu, il savait qu'elle serait là, elle aussi. À vrai dire, cela aussi, elle l'avait prémédité. Lorsqu'il s'inclina en guise de salut, elle fit signe à Claude Minkowski de faire ouvrir la porte, puis se dirigea vers la crypte du Sphinx, sans plus un regard vers le gardien du musée. Il savait ce qu'il avait à faire. Ses talons de prix claquaient sur un rythme régulier, calqué sur celui de son cœur, étonnamment calme. Adélaïde Chamberlain l'attendait près de l'imposante statue, son long manteau de velours grenat contrastant avec l'éclat de ses Doc Martens et ses mains calées dans les poches de son jean moulant, sans doute pour leur éviter de se perdre en gestes nerveux. Son ancienne stagiaire avait insisté pour jouer son rôle dans la partie qui était sur le point de s'ouvrir. Elle tourna brièvement la tête pour sourire timidement à sa mentor, puis reporta son attention sur d'autres bruits de pas, tout aussi patients, qui s'approchaient depuis les anciens fossés du donjon des rois de France. Belladone Mercier s'arrêta près de sa jeune élève et suspendit son souffle elle aussi quelques instants. Karl Gustav von Schoffel apparut au bas de la volée de marche en contrebas, avec dans sa main gauche le rouleau de papyrus le plus précieux qui ait jamais existé. Le livre de Thoth. Il s'inclina à nouveau devant elle.
Madame Mercier, mademoiselle Chamberlain, je ne puis hélas dire être heureux de votre présence ici. Mais du moins, vous ne me décevez pas. Votre piège ne pouvait être qu'une invitation, car il s'agit de dompter les masques ce soir, n'est-ce pas ?
De votre côté, vous avez été particulièrement habile à couvrir vos traces. Il nous a été difficile de discerner votre présence au milieu de toutes ces étranges consultations.
Oui, enfin, pour être totalement honnête, nous n'allons pas non plus vous dire merci. Vous êtes tout de même responsable d'une sacrée pagaille.
C'est justement le plus grand compliment que vous puissiez me faire, mademoiselle Chamberlain. Et vous le savez parfaitement. Je ne suis d'ailleurs pas loin de penser que vous êtes la plus dangereuse des deux. Belladone est forte. Très forte. Mais vous, Adélaïde, vous avez quelque chose de plus que ni elle, ni moi n'avions. Vous avez un grand potentiel et vous ne devriez pas le gâcher avec des principes de notre âge. Si vous acceptiez de le voir, vous comprendriez que votre talent ne devrait pas être bridé. Je puis vous guider le long de ce chemin. Je suis certain que vous feriez merveille.
Oh, je n'en doute pas, docteur. Mais je doute encore moins de votre réelle motivation. Et je sais qu'elle n'est autre que votre propre profit, non le mien, ou celui des personnes qui croiseraient notre route. Je dois donc décliner votre offre. Je ne vous mentirai pas, j'y prends un grand plaisir. Vous ne m'inspirez que du mépris.
Je ne pensais pas si bien dire en parlant de dompter les masques. Vous désirez donc emprunter ce chemin, Fort bien. Prenez ce bandre en garde à ne pas trébucher pendant que vous la arpentez, ma chère. Il pourrait se révéler plus douloureux que vous ne le pensez.
Eh bien, maintenant que les politesses d'usage ont été échangées, allons-nous enfin commencer ? Ou bien aviez-vous prévu de nous assommer toute la soirée avec vos platitudes jusqu'à ce que nous demandions grâce ?
L'ironie ne vous y est guère, madame. Mais soit, vous n'imaginiez pas que votre seule présence ici eût pu me détourner de mon projet et m'empêcher de le mener à bien. Vous avez constaté ma détermination et les moyens que j'ai déployés. Vous ne m'arrêterez pas avec des paroles et des douces que vous avez à m'opposer, sinon vous auriez déjà agi. Vous n'avez pas compris que les mots sont d'autant plus acérés qu'ils sont maniés comme des armes et couplés à une action impitoyable. Nos amis égyptiens l'avaient bien saisi, eux qui blasaient les mots au cœur de leur vision du monde, la source même de la magie. Je vais vous en donner un aperçu. Voyez cela comme une double leçon adressée à chacune d'entre vous.
Alors, le psychiatre viennois ôta ses lunettes pour révéler ce qui avait pris place dans son orbite droite, là où l'organe aurait dû se trouver. Un œil doré et argenté à la pupille de rapace. L'œil d'Horus. L'Oujad qui lit tout, discerne la vérité et disperse les ténèbres. Son éclat fut tel qu'il éblouit les deux femmes et inonda d'une blancheur aveuglante l'image restituée par les moniteurs de surveillance aux gardiens du musée. On entendit que le son inquiétant d'une formule magique déclamait dans une langue morte depuis des millénaires. Lorsque la lumière fut redevenue supportable, Carl Gustav von Schöffel était toujours là et il avait à nouveau chaussé ses verres teintés en enroulant le livre de Thoth entre ses mains.
Nous n'avons plus qu'à être patients et vous comprendrez que vous n'auriez jamais dû vous mesurer à moi ni gager mes projets. Je ne vous pardonnerai jamais, Belladone Mercier, d'avoir non seulement brisé tous les miroirs de ma demeure, mais surtout de m'avoir privé du dernier objet dont j'avais besoin pour parachever mon œuvre. L'encre d'Osiris allait m'ouvrir les portes et vous me les avez refermées au nez en me privant de la seule clé capable de la déverrouiller. Mais c'est égal. Vous allez apprendre dans la douleur qu'on ne me contrarie pas si aisément. Votre jadiment à toutes les deux aura d'être présente lors de mon triomphe, d'y assister aux premières loges et d'y pouvoir rien changer.
Qu'est-ce qu'on entend ? Claude, tu vois quelque chose sur tes écrans ?
Non, je... Oh non, c'est pas possible !
Quoi ? Tu ne me rassures pas vraiment, là.
J'ai bien peur de pas pouvoir du tout te rassurer. Je ne sais pas comment te le dire, mais il a réveillé, enfin... Tu connais une série qui s'appelle The Walking Dead ? La même chose avec des bandelettes.
Tu veux dire des... momies ?
Heureusement, il n'y en a qu'une d'exposée au musée. Par contre, elle se dirige vers vous.
Une seule exposée ? Mais combien non exposées ?
J'ai pas le chiffre en tête. Une demi-douzaine, peut-être ?
Quoi ?
Oui, Adelaide, vous allez vers base, vous pouvoir des mots incarnés. Aisez-moi quand vous êtes le contrôle.
Laissez Adelaide en dehors de tout cela.
Mais vous l'avez dit vous-même, Belladone. Votre ex-agiaire a plus de ressources qu'on ne le pense.
Et en effet, en plus des pas saccadés qui approchaient depuis la salle 322 entraînant avec eux encore quelques morceaux de verre rescapés de la vitrine brisée, d'autres restes mortuaires s'étaient libérés à grand-peine des réserves et se frayaient un chemin à travers le musée. Des cris se faisaient entendre, de salle en salle, lorsque les trépassés revenus à la vie croisaient les gardiens du palais.
Et vous pensez me faire peur peut-être ?
J'ai eu cette faiblesse, c'est vrai. Au demeurant, ce n'est pas ce qui m'importe le plus. Le véritable travail de Pachérimine sera de vous empêcher de nuire. N'ayez crainte, je ne lui ai pas ordonné de vous tuer. Je n'ai pas encore abandonné l'idée de faire de vous mon élève. Non, Belladone, ne tentez pas de vous interposer. Vous voyez, c'est inutile. Pachérimine ne peut être arrêté par un être humain. Seul un dieu ou une déesse le pourrait.
Vous êtes vraiment abject.
Ne résistez pas non plus, Adélaïde. De toute façon, Pachérimine n'est pas seul. Voyez, je vous présente Badimenipet, Eudaimonis et Meidouseket. Les autres vont se charger de maîtriser les gardiens pour éviter que le sang ne coule. Le leur, bien entendu.
Vous êtes tombé bien bas s'il vous faut vous tourner vers des gens morts depuis des millénaires pour exécuter vos basses œuvres. Je suppose qu'ils n'ont pas le choix de vous obéir.
C'est en effet l'un de leurs nombreux avantages. Ça et le fait qu'ils et elles soient invincibles. Mais j'ai affaire, et Belladone, et vous allez m'accompagner, de gré ou de force.
Nous allons vous suivre sans résister. Vous avez bien trop confiance en vous pour que nous manquions votre inévitable déconvenue.
Mais sans plus répondre, et dans un silence sépulcral que même Claude Minkowski n'osa pas briser à travers l'oreillette qui le reliait à Adélaïde, le docteur Von Schuffel emprunta l'escalier de marbre poli qui s'ouvrait sur le côté droit du sphinx et menait vers les salles égyptiennes du Louvre, suivi comme son ombre par les quatre morts-vivants. Deux de ces derniers avaient empoigné de leurs mains bandées au contact visqueux les bras d'Adélaïde Chamberlain, et les deux autres veillaient à ce que Belladone Mercier ne s'écartât point du chemin. La petite troupe traversa les salles du rez-de-chaussée de l'aile Sully, encadrant la cour carrée, et fit un très léger détour par la salle 329. Là, comme si tout cela lui appartenait de droit divin, le psychiatre s'arrêta devant la vitrine numéro 7. Prononça deux mots secs pour ordonner à Eudaimonis de briser le verre sécurisé, ce qui fut étonnamment aisé, et de lui remettre une boîte de bois aux hiéroglyphes blancs.
Voilà qui pile les collections maintenant. Mais je ne comprends pas ce qu'il veut faire avec un jeu de scénettes.
Si tu veux mon avis, quelque chose de bien tordu.
Ayant apparemment obtenu satisfaction, il reprit son chemin et mena le groupe jusqu'à la salle 324, que notre plus fidèle auditoire reconnaîtra sans peine, puisque c'est celle où Thoth avait disparu, seulement quelques semaines plus tôt, après la première consultation extraordinaire de nos deux psychologues. Le psychiatre viennois s'avança jusqu'au linteau du Moyen-Empire en se plantant devant. Il ôta ses lunettes tout en déroulant le livre de Thoth. Dans un phrasé presque parfait, quoiqu'avec un très léger accent guttural que des puristes tels que Pachérimine ou Meïtou Seket n'eussent pas manqué de remarquer s'ils n'eussent pas été préoccupés par des considérations plus immédiates telles que l'inconfort des bandelettes et la désagréable impression qu'on les dérangeait dans leur éternel repos, Carl Gustav von Schuffel prononça une autre formule magique qui fit rapidement irradier la pierre millénaire. Vous est-il déjà arrivé de ressentir une profonde irritation lorsque la sonnerie du réveil vous tire beaucoup trop tôt du profond sommeil dans lequel vous vous prélassiez seulement quelques fractions de secondes plus tôt? Cette émotion de colère intense, de rage oserais-je même dire, qui envahit votre être tout entier, corps, âme et esprit, à l'instant précis où vous prenez conscience d'avoir été arraché à un état de félicité divine pour chuter dans une matérialité fruste et engoncée? Ce bouillonnement volcanique à l'idée d'avoir été expulsé hors d'une plénitude indescriptible pour trébucher sur la banale limite de la chair? C'est exactement ce sentiment qui habitait au plus profond de leur bandelette de lin les quatre morts-vivants enchaînés malgré eux par la volonté métallique du psychiatre dévoyé. Pour l'heure, aucun son ne sortait de leurs lèvres desséchées, entravées qu'elles étaient par des couches de coton et de tissu, mais ce courroux couvait dans leur chair cartonnée aussi bien que les braises sous la cendre. Ce fut également cette émotion qui m'étreignit la poitrine lorsque mes pieds nus se posèrent sur les froides dalles de marbre du Louvre et que mon corps apparut dans toute sa majesté face à cette étonnante assemblée de morts et de vivants, que mes crocs se retroussèrent en grognement d'avertissement et que mes longues oreilles se couchèrent en arrière.
J'y crois pas.
Mon Dieu, Anubis.
C'est ainsi que je fis enfin mon entrée dans cette histoire et que je rencontrai pour la première fois, au même moment, le docteur Von Schuffel et Madame Belladone Mercier.
Vois et obéis, gens de l'enfer. Je possède l'œil d'Horus et le livre de Thoth. Tu ne peux rien contre moi, mais tu vas me donner ce que je désire.
Permettez-moi de vous présenter nos excuses. Il n'était pas dans mes intentions ni dans celles de mon étudiante de vous manquer de respect.
Je ne puis ignorer les objets que tu détiens, mortel. Mais cela ne signifie pas que tu aies la possibilité de me contraindre à quoi que ce soit. Prends exemple sur la déférence dont témoigne la femme à tes côtés et tu obtiendras bien plus qu'avec tes menaces voilées.
Il est vrai que je ne puis te contraindre par la force, maître de l'embaumement. Mais je connais les règles et si je te dévie, tu ne dois pas te soustraire à l'épreuve. Tout comme moi, les lois de maths t'obligent à jouer contre moi.
C'est donc ça qu'il mijotait. Il veut jouer son âme au Sénète contre Anubis.
Tu dis vrai et je respecterai les édits de Mahat. Tu ne m'inspires cependant guère de sympathie, toi qui as arraché de leur repos ces quatre dépouilles et les contraint à servir de geôlier pour imposer ta volonté aux deux femmes qui t'accompagnent.
Je vous remercie de ces paroles, dieu Anubis. Mais cet être est bien plus faible qu'il n'y paraît.
Voyons, Baladon, vous êtes au-dessus de ces petits tours mince-gains. Je sais que vous complotez pour m'amener à vous laisser jouer avec le dieu à l'aide de jagal contre moi. Vous avez deviné ce que je désire obtenir, n'est-ce pas? Alors vous auriez dû aussi comprendre que si je vous ai laissé en vie, c'était pour vous mesurer l'un à l'autre dans cette ultime confrontation. Vous devez comprendre avant la fin que je vous suis infiniment supérieur et que vous faisiez fausse route depuis le commencement. Vos scrupules, votre édic ridicule, vos principes surannés ne sont rien devant le pouvoir et la volonté, et je veux que vous l'éprouviez dans votre corps et dans votre esprit. Aussi, il n'est guère besoin de vos manigances cousues de fil blanc, comme vous dites dans votre langue. Prenez place à côté d'Anubis et affrontez-moi à ses côtés.
Votre ego vous perdra, docteur. Je suis honoré de m'asseoir à vos côtés, grand dieu Anubis.
L'honneur est partagé, Belladone Mercier. La langue d'Atum m'a parlé de toi ainsi que de ton élève, la fougueuse Adélaïde de Chamberlain, qui se trouve, j'en ai bien peur, en meilleure posture que toi en ce moment, malgré ce que tu pourrais croire. Car il ne s'agit pas d'un jeu ordinaire que le Sénète. Pour qui y mise son existence et me met au défi, il signifie entrer dans le monde souterrain et transformer son être en dissociant, puis en réassociant les sept composantes qui en sont l'essence. Le corps Jet, l'âme Ka, l'esprit Ba, le cœur Ib, le souffle de vie Ankh, le nom Ren et l'ombre Shut. Tout cela en lançant les quatre baguettes de bois que voici, dont la face visible, une fois retombée à terre, indique le nombre de cases que ton pion peut parcourir le long des 30 cases qui serpentent sur le chemin vers l'Occident. Ces cases sont pour la plupart des étapes profanes, mais 5 d'entre elles sont sacrées et emmènent le joueur dans une épreuve symbolique, la 15e, la maison de la Renaissance, et les 4 dernières avant la 30e, respectivement les maisons de la Félicité, de l'eau, des 3 vérités et d'Ora. Si tu remportes les épreuves, alors tu maîtrises les composantes de ton être. Si tu y échoues, en revanche, tu deviens un damné, Mutu. Un peu comme les pauvres défunts que le docteur Von Schuffel tient ici sous sa férule.
Charmante destinée, en effet. L'enjeu est cependant tout autre ici. C'est non seulement le destin du docteur Von Schuffel qui en est le prix, mais aussi le vôtre et celui des autres divinités, vos frères et sœurs d'Égypte.
Je l'ai compris après ce qui est arrivé à Aset ou à Sekhmet et Hathor. Mais les lois de Maat sont immuables et invincibles. Nous leur sommes tous soumis, mortels ou Netjiru. Je ne puis donc m'y soustraire et je jouerai ainsi que je le dois. Ce sera un plaisir que de le faire en ta compagnie.
Allons, asseyons-nous. Et comme il est d'usage, c'est le requérant qui débutera. C'est donc moi qui lancerai les baguettes en premier.
C'est juste.
Cela commence par un 5, puisque toutes les baguettes sont retombées face marquée visible. J'avance mon pion de 5 cases et me retrouve sur la 20e. À vous de jouer.
Je te laisse maîtresse de ton destin, Belladone Mercier.
3 baguettes face marquée visible.
Alors, seulement un point. Car ce sont cette fois les faces cachées qui comptent et seule la 4e est dans ce cas. Nous nous retrouvons sur la 16e case. Laissons notre adversaire reprendre son tour.
Une seule baguette base visible. Je marque 3 points. Je suis sur la 23e case.
Aucune face visible.
Cela compte pour 4 points. Nous avançons jusqu'à la 20e maison.
Une base visible. La chance est avec moi. Ça semble évident, puisque j'atteins la 26e case. Et j'entre.
Dans la maison de la félicité.
Au Louvre, devant la statue de Psyché, ranimée par le baiser de l'amour. Qu'attends-tu de moi, Anubis ?
Je n'attends rien. Tu as choisi cet endroit, à toi d'en tirer profit.
Et pourquoi suis-je moi aussi dans cette pièce du musée ?
Parce que tu es le miroir de notre adversaire.
C'est une joute, ma chère Belladone. Voyez comment votre idéal est figé dans le marbre. Cette image est immobile, morte, impossible. De bonheur, il n'est pas question ici. Ouvrez les yeux. La sensualité, l'autre, cet ange qui soutient et caresse la femme à Languille. On se croirait dans un mauvais feuilleton. D'où cela n'est qu'illusion. D'où cela n'existe pas. Il n'y a pas de bonheur. Nous nous construisons sur nos traumatismes, sur nos désillusions, sur notre prise de conscience que rien n'est éternel, sauf le pouvoir d'agir sur la réalité.
Et pourtant, cette statue fait écho en nous. Elle nous rappelle les frissons légers, parfois profonds, qui courent sur nos peaux jusqu'aux racines de nos cheveux. Nos corps sont vivants, et cette sculpture également, qui a le pouvoir justement de nous rappeler ces sensations, parfois même de les provoquer à nouveau. Nous sommes vivants, et nous pouvons faire appel à notre mémoire pour vivre à nouveau ces moments.
C'est aussi le cas pour vous, Paddy Menipet, Eudémonis, Méitouséket, même pour vous, Pacherimine.
C'est le corps qui nous anime, Dr. von Schoeffel. Oui, même vous.
Isegor est vé pour dominer, Madame Mercier, pour agir et imposer notre volonté.
Ou pour interagir et accorder nos visions, bâtir et prendre soin les uns des autres.
Pour ressentir et nourrir nos esprits aussi.
Je ne sais pas ce que vous leur dites à ces momies, mais ce serait bien de les convaincre de se calmer, Adélaïde. J'ai jeté un coup d'œil à l'extérieur du musée. Tu sais, The Walking Dead. Ça commence à y ressembler. Des gens un peu louches qui remontent la rue de Rivoli. Et, plus égoïstement, j'aimerais bien que ces choses mortes qui essaient de défoncer la porte du poste de sécurité d'où je te parle retrouvent un état plus conforme à ce qu'on attend de choses mortes.
Je fais de mon mieux, crois-moi.
Vous avez trouvé votre corps, Jet. C'est à toi de lancer les baguettes, Belladone Mercier.
Une face visible. Cela fait 3, c'est bien ça?
Cela t'emmène en 23e maison. Nous laissons la main au docteur von Schoeffel qui doit reprendre sa route à partir de la 15e case, la maison de la Renaissance.
C'est donc ainsi que tu la vois, la Renaissance, Anubis, la victoire de Zamondras, Zandette?
Mais avec des ailes, c'est l'élan vital, le cœur, n'est-ce pas?
C'est bien cela, Belladone Mercier. Ib, le cœur, réceptacle de nos émotions et de nos pensées.
Le piège et zone l'échappatoire.
Ou les deux ailes qui nous portent vers notre but.
Les joies, les peines, les espoirs que vous aviez lorsque vous étiez vivant. Vous pourriez les ressentir à nouveau, maintenant que vous avez un corps.
L'espoir.
Et je ne sais pas ce que tu leur as dit, mais elles ont cessé de tambouriner sur la porte. Et oui, tous les autres se sont immobilisés dans les rues.
Ah, c'est ainsi que vous voulez jouer, Belladone, Zoat. Les baguettes me donnent à nouveau zinc. Zandon de Z-Case.
C'est donc à toi de lancer, Belladone Mercier.
1-5, moi aussi.
En case 28, la maison des trois vérités.
Le serment des Horaces par David. C'est juste, ils sont trois à prêter serment de terrasser leurs ennemis, les Curias.
Et leurs droits épais ont les droits vérités. L'âme, l'esprit et l'ombre. Et c'est donc à moi de m'en saisir.
Ou bien à vous, qui en avez été dépouillé.
Je ressens à nouveau... Et je pense, il y a un grand vide en moi.
Car vous oubliez un détail, docteur. C'est un autre homme qui tient les épées et les unit dans sa main. C'est le cœur.
Quoi que vous fassiez, ça marche. Les morts sont tous immobiles.
Ah, mon tour est venu.
Tu ne peux sortir de cette maison vers la suivante que si tu obtiens un 3. Tout autre résultat te fera reculer.
Verdammt, cela fait seulement un point.
Tu entres dans la maison de l'eau.
Le bain turc de Jean-Dominique Ingres. Évidemment. Ah, cela peut être que le souffle de la vie, Hank. La seule chose qui me manquait pour triompher. Elle donne vie à tout le reste, comme cela.
Que se passe-t-il? Ça recommence. Oh non, ils sont rentrés. Ils me tiennent, ils m'emmènent.
J'ai l'impression qu'elles sont très très en colère.
Je dois rejouer, vite.
Tu ne peux entrer dans la maison suivante que si tu obtiens un 2.
Alors il est temps de compter sur la chance, n'est-ce pas? 2.
Inutile de continuer. Vous avez déjà perdu, Madame Mercier.
Pas tout à fait. Il reste la dernière maison.
Celle de Ra.
C'est bien devant la Joconde que nous nous retrouvons. C'est donc le nom. Le nom par lequel nous désignons chaque être et chaque chose. Le nom qui nous définit. Pour elle, c'est Mona Lisa.
Pour vous, c'est...
Paddy.
Menipet.
Monus.
Méitouséket. Pacherimine.
C'est votre parole qui vous est rendue et votre bouche qui s'ouvre. C'est l'acte qui ouvre le processus d'embaumement et qui le termine.
Et avec votre nom, vous recouvrez votre volonté. Vous n'avez plus à obéir à qui que ce soit. Libérez-vous.
Je suis donc libre ? Vraiment libre ?
Vous l'êtes.
Ils m'ont lâché ! J'arrive ! Tiens bon !
Comment ça ? Vous ne vous pouvez pas ? Vous en prendre à moi. Je vous ordonne de rester à vos places. Je possède votre volonté. J'ai le pouvoir de l'œil d'Horus et celui du livre de Dot.
Ce n'est pas tout à fait vrai. Avec le nom, c'est le pouvoir des mots qui s'émancipe. Vous ne pouvez plus lire le livre de Dot.
Ah, il est évasé, le livre de Dot. Mais comment est-ce possible ?
Vous aviez sans doute oublié, dans votre projet d'acquérir l'immortalité ou le pouvoir d'un dieu, que ce à quoi nous tenons tous le plus, vivants ou morts, reste notre identité, notre individualité.
Mais mon but n'est pas aussi mesquin. Votre vision est décidément trop bédriguée. Vous ne désignez que la surface des choses, alors que l'essentiel vous reste caché. Quel piètre psychologue vous faites, finalement ? Certes, j'ai perdu le livre de Dodd, mais le plus important n'est pas là. En terminant le bargour du Sénat contre Anubis, j'ai symboliquement traversé la frontière qui me débarrait du royaume d'Osiris. J'ai obligé le dieu Chagall à accomplir le rituel de l'ouverture de la bouche sur moi. C'est ce qui m'assure le passage dont vous m'aviez privé en me reprenant l'ancre. Vous voyez, il existe pour moi toujours un moyen de vous surpasser. Et qui plus est, j'ai encore l'œil d'Horus en ma possession.
Il dit vrai, hélas. Les morts, pas plus que les vivants, ne peuvent grand-chose contre lui.
Alors, retournez à votre repos. Vous ne serez plus dérangé, vous avez ma parole.
Merci, Adélaïde Chamberlain.
Tout va bien ?
Du mieux possible quand on vient d'échapper à des momies en furie.
Mais vous, vous êtes obligé de l'emmener.
Je suis lié par les lois de Maat. Oui, je le dois.
Alors nous vous accompagnons.
Bien sûr. Il va de soi que vous deviez être présente pour constater à quel point vous êtes fourvoyée.
Ne rêvez pas.
Oh, je ne rêve pas, Adélaïde. Il se peut même que vous approuviez mon projet quand vous le comprendrez.
Ce que j'en ai vu jusque-là me suffit à savoir que vous êtes complètement timbré.
La folie n'a cependant mené ici. Et c'est dans votre compagnie que je franchis donc les portes du royaume des morts.
Lorsque j'ouvris le chemin qui mène jusqu'au trône d'Osiris, le silence se fit des deux côtés du seuil. Malgré eux impressionnés par la magnificence du palais des dieux de Kemet, les mortels retinrent leur souffle de très longs moments. En découvrant les peintures vives qui ornaient les murs, les odeurs épicées qui flottaient dans l'air et la claire mélodie qui en accompagnait les notes douces amères. De l'autre côté, les Nedjirou sur leurs sièges d'or et de pierres précieuses, trop hébétés par la surprise de voir l'intrusion inattendue de leur domaine, ne purent esquisser aucun geste de défense quand le psychiatre viennois y pénétra d'un pas conquérant. C'est sous l'œil effrayé et courroucé de rats que le silence atterré de Thoth, Horus, Isis, Hathor, Sekhmet, Osiris et Sétek accueillit le docteur Von Schuffel lorsqu'il fit son entrée. Seconde partie. Tonight, tonight.
Nous y voilà donc. J'ai beau vous avoir vaincu tous les uns après les autres, vous voir ainsi réunis ne m'impressionne pas autant que je l'avais imaginé. On ne devrait jamais rencontrer ces idoles.
Que viens-tu profaner ici, où tu viens d'entrer par la ruse et la contrainte ?
Je viens avant tout contempler vos figures, avant qu'elles ne rejoignent le néant dont vous avez si peur.
Nous te ferons payer cette impertinence et tu devrais trembler devant notre colère.
Je devrais trembler ? Mais vous n'êtes plus épuisant pour me faire peur, petit rapace. Qu'avez-vous accompli depuis 2000 ans ?
Eh bien, j'ai bu et dansé, évidemment.
Oui, enfin, comme d'habitude, hein. Tu n'as jamais fait que cela dans ton existence.
Ben, je le fais tellement bien que tu en es jalouse depuis toujours.
Moi ? Jalouse de toi ? Laisse-moi rire !
Il suffit, gardienne. Donner une bien piètre image de la divinité.
Exactement. Et vous le dites vous-même, depuis toujours, comme d'habitude. L'un de vous, l'une de vous, a-t-elle accompli quelque chose de différent de ce qu'elle a toujours fait depuis 2000 ans? Horus?
Non.
Tu aurais pu te réconcilier avec ton oncle depuis le temps. Pourtant, ce n'est pas le cas. Et ton oncle, Zedek, lui?
Pourquoi est-ce que je me réconcilierais avec lui?
Exactement. Il te faudrait, pour cela, changer de point de vue, évoluer, grandir, vieillir. Mais tu ne changes pas. Tu n'évolues pas. Aucun de vous n'évolue. Vous restez figé dans le temps, comme dans l'espace. Vous êtes incapable de faire autre chose que ce que les mythes racontent de vous. Vous êtes condamné à rejouer ces mythes, encore et encore, jusqu'à la fin des temps, qui ne viendront sans doute jamais.
Tu ne parles pas avec justesse. Nous avons une fonction. Nous avons un rôle et il est fondamental dans la marche du monde. Nous sommes les entités qui l'ordonnent et le stabilisent.
Ils vont stagner, oui.
Vous associez donc stabilité et stagnation, docteur ? Il me semble pourtant que Thoth parle des concepts que chacune de ces entités divines incarne et fait vivre. La joie et l'amour d'Hathor, la colère et la vengeance de Sekhmet.
La loyauté.
L'amour conjugal et filial.
La soif de connaissance.
Les cycles de la vie et de la mort.
Tout cela est vivant, donc tout cela évolue, non ?
Pourtant, cela n'a pas évolué en plus de 2000 ans. Le temps lui-même a-t-il d'ailleurs atteint cet endroit ? Je n'ai pas l'impression. Mais admettons que je me trompe et que vous puissiez changer. Vous désirez vous débarrasser de vos traumatismes, n'est-ce pas ? Ils vous font donc s'ouvrir ?
Bien évidemment que nous le voulons.
Nous y sommes parvenus, grâce à Belladone Mercier et Adélaïde Chamberlain.
Comme des êtres humains, vous allez donc perdre vos traumatismes, c'est ça ?
Eh bien oui, c'est là le but.
Alors, tu ne seras plus obsédé par la connaissance de la vérité, n'est-ce pas ?
C'est cela.
Donc, tu ne seras plus Thoth, tu ne seras plus le dieu de la connaissance, tu perdras des pouvoirs.
Pourtant, je les ai encore en moi.
Et donc, que tu n'as pas changé. Le propre des dieux est de embrasser les humains en pouvoir, de posséder de toute éternité une puissance infinie dans leur domaine. Donc, de ne pas changer, car on ne peut rien retirer à l'infini sans le rendre fini, donc sans l'amoindrir. Les humains, au contraire, peuvent changer parce qu'ils ne possèdent pas tout. Si vous êtes des dieux, vous ne pouvez changer. Mais si vous changez, alors vous n'êtes plus des dieux. C'est un équilibre, et tu aimes dans les équilibres, Thoth, que tu ne peux briser celui-ci.
Tu tentes de nous embrouiller avec tes paradoxes, mais Belladone Mercier m'a appris que nous pouvons sortir des paradoxes.
Ah oui, pourtant, les paradoxes sont justement indépassables. C'est ce qui fait qu'ils ont des paradoxes.
Mais les paradoxes ne sont considérés comme tels que sous un certain angle de vue, docteur.
Bonne naïveté et doux gendre, Belladone Mercier. Mais je vais vous suivre sur ce terrain. Vous pensez comme moi que les dieux sont des modèles auxquels on se réfère.
Vous n'allez pas tenter une séquence d'acceptation avec moi tout de même.
Je vous respecte trop, mais je vois que vous acquiescez. Nous sommes donc d'accord.
Ça dépend de ce qu'on appelle modèle. J'en connais qui donnent un drôle d'exemple.
Hé, tu veux que je rappelle à tout le monde quel modèle de maîtrise de toi tu es, puissante Sekhmet ?
Oh, ça va ! Tout ça pour une seule erreur ! Ça peut arriver à tout le monde de confondre du sang et du vin. Tu vas me le répéter toute l'éternité ?
S'il le faut.
Voyez vous-même, Belladone Mercier. Moi, je ne vais que renvoncer des branchants qui existent déjà. J'ai les dieux. Vous ? Vous avez essayé de les changer. Vous avez demandé d'éliminer ces traumatismes. Et pour quel résultat, finalement ?
Vous êtes de mauvaise foi, docteur. Je n'ai pas touché une goutte d'alcool depuis...
Mais justement, alors, qu'est-ce que la déesse de l'ivresse sans alcool ? Une coquille vide sans plus aucune action sur le monde. Un modèle ? Mais quel modèle ? un soignant adore de son penchant boulexé, vous lui avez ôté sa divinité, Madame Mercier. Car les dieux ne peuvent pas changer. C'est là le paradoxe auquel vous êtes confronté. Soit les divinités ne changent pas, et leurs pouvoirs sont consubstantiels à leur traumatisme éternel. Donc vous ne pouvez pas les soigner. Soit elles changent en se libérant de leur traumatisme et vous leur enlevez leur identité. Donc, doux travail psychologique avec elles est voué à l'échec. Dans les deux cas, vous perdez la partie contre moi.
Mais ça veut dire que je ne représente plus rien alors ?
Oui, c'est ça. Plus rien.
C'est un mensonge et je vais te le faire rentrer dans la gorge.
Ah bon ? Un mensonge ? Vraiment ? Mais alors, dis-moi, Horus, comment as-tu perdu le pouvoir de Donneuil ?
C'est quand j'ai recouvré la vue.
Donc, quand tu as été guéri de la zézidé, de guérir ta amoindrie.
C'est vrai ? Je ne suis plus rien alors ?
Tu restes mon fils adoré, mon petit faucon sucre.
Maman !
Ton fils adoré, mais tu n'as même pas su le protéger. Tu aurais dû l'empêcher d'aller consulter Belladone Mercier. Et ainsi, il aurait gardé son œil.
Il a raison. Je suis une mauvaise mère.
Regardez, vous n'avez plus de pouvoir sur moi. Plus de pouvoir sur nous, les humains. Vous êtes tous aussi mortels que nous et vos drones s'effondrent. Vous, Belladone Mercier, vous, Adélaïde Chamberlain, je dois vous remercier, car vous avez grandement participé à ce triomphe de l'humanité sur l'obscurantisme et la tyrannie des divinités. En guérissant leur traumatisme, vous les avez rendus humains. Vous leur avez ôté leur divinité. Vous les avez désacralisés. Ils ne sont plus rien. Et c'est grâce à vous.
Alors c'est ça votre raison ? C'est ça votre justification ? Vous voulez abattre les dieux ?
Non, pas les abattre, Belladone Mercier. Mais les abolir. Non, pas les amoindrir, mais nous en libérer. Pouvez-vous me dire, cher Belladone, combien de massacres, combien d'exactions, combien d'horreurs nous devons aux dieux et aux déesses ? Non, vous ne le pouvez pas, car tout cela est innombrable. Les humains ont été soumis aux divinités depuis l'aube des dents. Et depuis ce moment-là, nos existences toutes entières ont été déterminées par le bon vouloir de ces entités. Nos espoirs, nos désirs, nos lois, tout cela a été conditionné par les archétypes que nous a imposé la divinité.
Les archétypes ? Vous ne portez donc pas votre prénom pour rien ? Vous citez vraiment Jung ?
Il avait compris le plus important, Adélaïde. Il avait compris que les divinités, ce qu'il appelait les archétypes, avaient une existence propre en dehors de nous. Ces archétypes, ces divinités, ont vasonné nos esprits, nos âmes, nos corps par leurs interdits, leurs prescriptions, les mythes qu'ils propageaient, ils ont toujours dirigé l'humanité. Et vous vous targuez de respecter vos patients, de les libérer de leur traumatisme, de leur conserver leur libre arbitre. Les éboirir, vraiment. Si vous vouliez vraiment les voir libres, alors il valait vous attaquer à la racine du mal.
Vous voulez dire aux dieux ?
À tout ce qu'ils représentent, oui. Ce que vous nommez concept ou valeur n'est rien d'autre qu'un masque derrière lequel se cachent d'autres divinités pour mieux nous tromper et nous diriger. Nous sommes les véritables maîtres de nos destinées. Nous devons être libres. Et tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui nous entrave, doit être renversé.
Bon sang, vous êtes un véritable anarchiste.
Ni Dieu ni maître, oui, monsieur Mingowski.
La liberté, à n'importe quel prix.
La liberté, la seule véritable liberté, des ailes qui s'avangent aussi des règles internes. Il n'y a donc pas de prix à payer, madame Mercier. Il n'y a que la liberté d'agir comme nous l'entendons. Nos désirs profonds nous définissent, madame Mercier. Eux, là, sur le trône, ils ne sont rien. Ils ne devraient même pas exister.
Mais par la lumière de Ra, je suis pourtant bien réel. Mon nom est réel. Tu ne peux nier le pouvoir des noms.
Et si l'on martèle un nom jusqu'à l'évaser?
Non, tu ne peux pas faire cela. C'est le pire des crimes.
Le plus juste des châtiments.
Mais alors, qui a créé les dieux, docteur?
Les humains, évidemment. Et ils nous font croire, ils dirigent nos vies. Alors, ils nous doivent tout. Si plus personne ne croyait en eux, ils n'auraient pas de pouvoir. Et ils n'existeraient même pas. Vous m'entendez? Je ne crois pas en vous. Donc, vous n'existez pas.
Mais comment expliques-tu que nous soyons bien là, face à toi?
Il y a encore des humains assez bêtes pour penser à vous. Pour prendre mon aile sur vous. Mais cela va prendre fin ce soir. Je pensais mettre fin à votre règne en m'emparant des symboles de vos pouvoirs. Mais Belladone Mercier et Adélaïde Jeanberlin m'en ont empêché. Ce faisant, pourtant, elles m'ont ouvert les yeux. Car il existe un moyen plus définitif, plus sûr. Je vais vous effacer.
Non !
Il me suffit d'évaser vos noms, ceux qu'ils ont inscrits ici. Tiens, par exemple, Osiris, celui qui a vaincu la mort. Pourras-tu vaincre la non-existence?
Non.
Belladone Mercier, arrête ça! Aide-nous! Regarde, mon bien-aimé est terrassé. Il respire à peine. Il disparaît peu à peu. C'est affreux! Tu ne peux pas laisser faire ça!
Cesse cela, sorcier! Ah! Non!
Mon fils, pitié! Pas mon fils!
Tu n'as plus de fils! Il n'est même plus un souvenir! Et toi non plus!
Ça va, ça suffit de pleurnicher, la daronne. Et on arrête de déconner maintenant, docteur.
Martine!
Martine! Martine?
Mais comment?
Comment j'ai échappé à la camisole et à une éternité de cacheton? D'abord grâce à ces deux nanas hyper courageuses, faut le reconnaître. Je voulais pas vous écouter, c'est vrai. Cela faisait trop mal, un mal de chien. Et puis ensuite, quand j'ai entendu mon nom, on aurait dit qu'il y avait des milliards de gens qui hurlaient mon nom. Genre Stade de France, vous voyez? C'est ça qui m'a comme réveillée. J'étais au Stade de France et il y avait des milliards de gonzes qui hurlaient « Martine !» Je veux dire, ça fait vraiment un truc bizarre au fond de soi. Alors ça m'a mis deux baffes, mais gigantesques, vous voyez? Et j'ai compris que je devais venir ici pour arrêter vos conneries, docteur.
Vous arrivez trop tard, ma chère, car en parlant de nom, je viens d'évaser Osiris et Horus.
Oui, enfin moi, je suis peut-être Miro, mais je les vois toujours, vos gugus, hein. Vous m'avez eu une fois, mais vous ne m'aurez pas une deuxième.
C'est vrai. Isis, regardez plutôt. Osiris, a-t-il disparu? Ou bien est-il toujours là?
Il est toujours là?
Moi, je le vois toujours. Il se tord de douleur et son teint est un peu plus vert que d'habitude, je vous l'accorde, mais il est bien là. On peut même le toucher, vous voyez?
Vous savez pourquoi?
Non, c'est un mystère. Son nom a été martelé, mais il est toujours lui-même.
Cela ne se peut!
Bien sûr que si, docteur. Vous l'avez dit vous-même. Ce sont les humains qui créent les dieux. Les humains, pas les noms. Vous, dieux et déesses, vous êtes des valeurs. Mais qui a le premier pensé ces valeurs?
Les êtres humains?
Exactement. Et s'il reste des humains qui pensent que vous existez, même sans connaître vos noms, alors vous existerez.
Et si vous êtes réellement des émanations de la pensée humaine, alors vous pouvez évoluer avec elle. Seuls les humains peuvent décider de changer ou non, car ils ont ce libre arbitre que les dieux n'ont pas. Les dieux sont soumis à leurs fonctions, mais paradoxalement, elle leur est donnée par les mortels et par les croyances que ces derniers placent en nous.
Donc, si je pense que vous existez, alors vous existerez. Et de la même façon, si je pense que vous pouvez évoluer, que vous pouvez changer, alors vous changerez. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une oreille attentive.
Et que quelqu'un vous fasse confiance, comme des humains, finalement.
Alors, je n'ai pas été oublié ?
On se souvient de nous ?
Depuis plusieurs millénaires, on apprend même vos noms aux collégiens depuis des générations. C'est ça, alors, leur problème central, l'angoisse d'exister ou pas ?
Il semblerait.
Ben, ça aussi, c'est assez humain, non ?
Totalement.
Oui. Et donc, si je n'ai pas été oublié, alors il n'y a pas de raison que tu continues tes enfantillages, Dr. Von Scheffel.
Bien dit, père ! Il est temps de faire cesser tout cela et de rendre ta justice.
Et vous pensez que je vais me laisser faire ? Mais je savais que vous alliez tenter de m'arrêter. Alors, j'ai pris les devants. J'ai gardé une arme secrète qui n'attendait que d'être dévoilée. Zedek, obéis-moi et reprends ta place à mes côtés. Approche. Plus près. Bien. Ainsi, 12 peuvent condamner à qui tu offres ton allégeance. Ploie le genou devant moi. Ploie-le devant l'humanité que je représente et tu survivras. Toi aussi, tu seras libre. Maintenant, redresse-toi et deviens mon bouclier contre tes frères et sœurs.
Oh non.
Mon frère, ainsi donc tu dévoiles ta traîtrise ?
Ne te méprends pas, Oussir. Je ne fais pas cela à cause de toi. Je le fais pour moi.
Je n'en attendais pas moins de ton caractère tortueux, ô frère desséché.
Ah, scélérat ! Il ne te suffit pas de m'avoir arraché mon œil une première fois !
En effet, cela n'est pas pardonnable. Sauf si...
Mais que fais-tu ? Ah ! Lâche-moi ! Non ! Ne touche pas à l'œil ! Tu m'entends ? Ah ! Je ne veux plus rien ! Ah ! Je suis aveugle ! Ah !
Impardonnable, disais-je, sauf si je te rends ce qui t'appartient depuis toujours, mon divin neveu.
Seth est un agent double.
Ou triple ? Je n'en sais vraiment rien. Je suis pratiquement certaine que lui-même ne le sait pas plus que nous. Mais tout ce qui compte, c'est qu'il soit finalement dans le bon camp, le nôtre.
Mais comment ?
C'est Belladon qui lui a suggéré lorsqu'elle a compris qui était notre adversaire et comment il s'était servi du dieu Setek. Et il lui a simplement suffi de lui expliquer comment il pourrait se venger de celui qu'il avait manipulé. En lui jouant un bon tour.
C'était bien pensé, se servir du dieu trompeur pour construire une machination à l'intérieur d'une machination.
Ah, je te maudis, Zedek !
Maudis-moi tant que tu le désires, mortel. Sans l'œil d'Horus, tu n'es plus qu'un chat au griffes rognées et au croc limé. Tu peux miauler tout en sous. Cela ne me fait ni chaud ni froid. Moi, par contre, je vais enfin pouvoir m'amuser à te faire payer pour t'être joué de moi. Tu pensais connaître la cruauté ? Attends un peu de voir ce dont je suis capable, docteur.
Oui, enfin, divin Setek, je me permets de te rappeler que nous avons des règles et que même toi, tu y es soumis. Avant tout, ce mortel doit être jugé par le tribunal d'Osiris, ce qui, convenons-en tous deux, est tout de même la forme de justice la plus sacrée.
Je ne suis pas vraiment d'accord, mais je veux bien faire un effort, ne serait-ce que pour vous montrer à quel point Belladon Mercier a raison. À quel point nous pouvons changer, si les humains nous en donnent l'occasion.
Bien, alors tu sais ce qu'il nous faut.
Oui.
Qu'est-ce qu'il fait ?
Eh bien, c'est évident, non ? Le divin Setek maintient fermement le docteur Von Scheffel à 53 cm du sol, très précisément, contre le mur, afin de correctement dégager sa cage thoracique. Savez-vous que, dans cette position, toute possibilité de se débattre lui est interdite ? Non ? Je m'en doutais. C'est la raison pour laquelle il a choisi cette prise, bien entendu, car il sera alors plus aisé pour mon frère Anpu, oui, celui que vous appelez Anubis, de pratiquer l'incision rituelle.
L'incision ?
Eh bien oui, l'incision. Comment voulez-vous qu'il saisisse son cœur sans ouvrir la cage thoracique ? Voyons, un peu d'esprit pratique, mademoiselle Chamberlain.
Son cœur ?
Oui, tu sais, Adélaïde, que le jugement des morts se fait en pesant le cœur avec une balance dont l'autre plateau soutient la plume de Math, le symbole de l'harmonie, de l'univers et de la pureté des actions et des pensées.
Non, j'avais oublié ces légers détails, mais il va rester vivant.
Techniquement, celui qui subit cette opération est déjà mort, puisque c'est le jugement des morts. Ce sont les prêtres d'Anpu, Anubis, je veux dire, qui réalisent ce rituel habituellement. Mais comme nous manquons un peu de fidèles depuis quelques milliers d'années, c'est le dieu Chacal lui-même qui doit se charger de cela. Oh, n'ayez crainte, je le soupçonne de ressentir quelque plaisir à se remémorer les gestes qu'il a lui-même inventés lorsqu'il était plus jeune, lorsque nous étions plus jeunes. Le monde lui-même était jeune à l'époque. C'était une époque bénie. Et d'ailleurs...
Oui, oui, oui. oui, j'ai compris. Mais le docteur von Schoeffel n'est pas mort, lui.
Eh bien, il se trouve que si, puisqu'il a joué contre Anne Pou au jeu du Sénet. Sachez qu'il n'y a pas d'autre façon d'entamer une partie avec le dieu chacal. Dès l'instant où il l'a défié, le docteur est passé de vie à trépas. Vous ne le saviez pas ?
Non, ça je dois avouer que je l'ignorais. Et si j'en crois la tête qu'il fait actuellement, le docteur lui-même devait l'ignorer également.
Non ! Vous ne pouvez pas ! Mais ça !
Bien sûr que si, voyons. Et cessez de faire l'enfant, vous n'avez rien senti, j'ai fait ça très proprement. Regardez vous-même, il est en très bonne santé, votre cœur. Il bat encore. Il me suffit de le séparer de votre grosse artère, là, et nous pourrons procéder à la pesée.
Mais vous allez me tuer !
Mais non, puisqu'on vous dit que vous êtes déjà mort. Pour un grand médecin, vous êtes un peu lent à saisir les implications de ce que l'on vous expose, je trouve.
Je vous en supplie, épargnez-moi, je vous promets !
Quoi ? De nous rendre nos pouvoirs ? Mais nous ne les avions perdus que tant que vous ne croyez pas vraiment en nous. Maintenant que vous savez que nous sommes vraiment des dieux, vous nous en avez tout naturellement rendu notre puissance. Et puis d'ailleurs, le peu que vous nous aviez confisqué était déjà hors de vos mains, puisque Belladone Mercier, Adélaïde Chamberlain et Claude Minkowski croyaient déjà en nous. Vous comprenez, la suite logique de votre théorie de l'existence des dieux, c'est tout bêtement que la puissance d'un dieu dépend de la croyance qu'ont les humains en lui. Or, même quand vous cherchiez à nous remplacer, à nous tuer ou à nous effacer, vous saviez que nous existions. Donc, vous croyiez en nous. Et ainsi, vous nous confériez, même au plus fort de votre machination machiavélique, un pouvoir qui vous dépasse. Ironique, non ?
Bon, langue d'Atum, tu as fini ton cours. Nous avons un jugement à accomplir, alors si tu pouvais abréger...
Oui, ça va. Allez-y.
Hein ? Voici que se présente devant le tribunal d'Ossir le mortel dont le nom est déclamé par la langue d'Atum.
Karl Gustav von Schoeffel, docteur en neurosciences de l'Université de Vienne, Autriche.
Que ton cœur soit maintenant pesé à l'aune des lois de maths.
Non, vous ne pouvez pas faire cela!
Au contraire, c'est ce que tu as demandé, mortel.
Je ne reconnais pas votre parodie de justice. Les humains sont maîtres de leur destin et vous n'avez aucune légitimité. Vous jugez mes actes, vous n'existez pas!
Le jugement est impartial. C'est le poids de ton cœur que voici, en face du poids de ma hâte que je dépose dans ce plateau-là.
Et vous pensez vraiment qu'il est possible qu'un cœur humain pèse moins qu'une plume?
Je ne sais pas. Ce n'est pas plus étrange que tout ce que nous avons vécu depuis quelques semaines. Si?
Vous n'avez pas tort. C'est juste que j'ai sans doute des scrupules mal placés, mais... je ne peux m'empêcher de trouver cette épreuve un peu biaisée, quand même.
Il me semble que cela serait une manifestation de justice immanente, après tout. Notre docteur a lui-même œuvré à ce que tout cela soit faussé. Le mettre en face d'un équilibre qu'il n'a pas lui-même contrôlé me paraît être une leçon particulièrement appropriée.
Anubis vient de déposer le cœur. Bon sang, j'espère qu'il va être le plus lourd.
Tes impuretés pèsent sur ton cœur, Karl Gustav von Schoeffel. Matt le rejette. Nous te jugeons donc indigne de la vie après la mort. Souverain Ossir, quelle sera ta sentence ?
Le châtiment est celui que l'ordre du monde réserve aux impurs. Que ce cœur soit dévoré par Amout, la bête au corps d'hippopotame, au thorax de lion et à la gueule de crocodile.
Lâchez-moi !
Ah ! Vous ai-je dit que je détestais ces bruits de mastication ?
Oui, je comprends pourquoi.
Que le cas de ce mortel soit dévoré par Babai, le démon frère d'Amout. Que ce mortel soit privé à jamais d'existence dans l'au-delà et qu'il meure à jamais.
Non, non, lâchez-moi! Vous ne vous débarrasserez pas de moi aussi facilement. Nous trouverez le moyen. Je reviendrai.
Ainsi, l'harmonie de Maat est restaurée.
Ouais. Enfin, c'est quand même un peu dégueu, cette façon de faire, je trouve.
Même si je comprends votre émotion, Adélaïde, il ne faut pas oublier que c'est le résultat de tout ce que le docteur von Schoeffel a manigancé depuis des mois, voire des années. Il est le principal, si ce n'est le seul responsable de ce qui lui est arrivé.
Oui,
j'espère bien que nous en avons réellement fini avec lui. C'était quand même un tort de premier à votre psychiatre, là.
C'est vrai, mais chut, on dirait qu'il s'apprête à juger Martine.
Voici que se présente devant le tribunal d'Oussir la mortelle dont le nom est déclamé par la langue d'Atoum.
Martine Trillion, responsable de la surveillance vidéo du Musée National du Louvre.
Que ton cœur soit maintenant pesé à l'aune des lois de Mahat.
Le jugement est impartial. C'est le poids de ton cœur que voici, en face du poids de Mahat que je dépose dans ce plateau-là.
Là, on va voir en même temps si un cœur peut peser moins qu'une plume et si leur justice tient compte du remords. Elle aura quand même rendu un fier service, Martine.
Oh !
Ton cœur est pur, Martine Trillion. Mahat l'accepte dans son harmonie céleste. Nous te jugeons digne de faire partie des bienheureux. Souverain Oussir, quelle sera ta récompense ?
Bienheureuse Martine, avance-toi et entre dans le royaume d'Occident où tu pourras séjourner pour l'éternité et jouir des bienfaits réservés à ceux qui sont dignes de Mahat.
Attends, Martine !
Je suis désolée, Claude. J'ai pas mal merdé dans l'ensemble. C'est mieux pour moi de partir comme ça. Je ne pouvais pas lui infliger ce que j'étais devenue. C'était pas une vie pour elle. C'était pas non plus un bon plan pour toi, de rester accroché à ta culpabilité pour ton ex-collègue de boulot. En plus, franchement, tu as mieux à vivre.
Je ne t'oublierai pas.
Je sais. Moi non plus. Mais maintenant, je suis en paix. Adieu. Et adieu à vous, les psys. Vous m'en voudrez pas, mais je suis contente de plus vous voir.
Y a pas de mal, ça se comprend.
Ça fait bizarre de perdre sa collègue et une amie en même temps, mais d'être content pour elle.
Et maintenant ?
Maintenant, nous allons regagner la Terre Noire, le désert et le fleuve.
Nous ne vous oublierons pas, nous non plus, Adélaïde Chamberlain, Claude Minkowski et Belladone Mercier.
Dans les millions d'années de Nout, la voûte étoilée, des légendes commencent à naître à votre sujet.
Qui sait si un scribe ne les consignera pas sur un rouleau de papyrus ?
Ou si une voix n'est pas déjà en train de les chanter pour divertir les convives d'un banquet divin ?
Nous les entendons déjà. Elles ne font d'ailleurs que commencer.
Alors partez d'ici, et soyez-en dignes.
Et ma mère qui en faisait des tonnes, je te jure. Bah, c'est pas tous les jours que sa fille est diplômée, donc forcément elle était très fière. Elle avait mis sa plus belle robe. On aurait dit que je me mariais, tu vois. Et heureusement qu'on était en juin, parce que son décolleté aurait été difficile à porter en hiver. Alors là, tu crois pas si bien te dire. Mon père a filmé toute la cérémonie avec son téléphone. On aurait dit Coppola avec son œil rivé sur l'écran. Et puis après, on est allé dans un super resto que connaissait ma maîtresse de stage dans le 14e. Mais si, je t'en ai parlé. C'est une pointure, elle s'appelle Belladone Mercier. Ah, tu vois, j'étais certaine de t'en avoir déjà parlé. Oui, forcément que ça me fait quelque chose, tu penses. Être choisie par Belladone Mercier comme associée. D'ailleurs, tu devrais voir la plaque à l'entrée du cabinet. Ça claque grave. Belladone Mercier et Adélaïde Chamberlain, psychologue psychothérapeute, en lettres noires très sobres, sur un fond de laiton doré. Ouais. J'ai même des cartes de visite trop stylées. Et ça tombe bien, je suis devant. Je viens d'arriver pour discuter avec elle. Je vais pouvoir t'envoyer une photo. Non, arrête, c'est vraiment mytho de faire un selfie. On n'a plus 15 ans, Sabrina. Si, elle doit encore travailler, même à cette heure-ci. Si, je te jure. Bon, je te laisse. Il faut pas non plus que je la fasse attendre trop longtemps. Je suis déjà en retard. Oui, comme d'hab, c'est vrai. Ok, à plus. Oh non, ça va pas recommencer. Oh. Claude, tu n'es pas encore à l'appart ? Bon, parfait. Alors, écoute-moi, j'ai besoin que tu fasses un détour pour moi. Si, c'est important, tu vas comprendre. Je suis chez Belladone et son cabinet. Oui, je sais, c'est aussi le mien maintenant, mais là, c'est pas le moment, tu vois ? Oui, parce que le cabinet, comme je te le disais, est sans dessus-dessous. Comme s'il avait été cambriolé. Il y a de tout partout. Non, j'ai pas regardé s'il manquait des trucs.
Non, parce que figure-toi qu'il n'est pas vraiment vide, ce cabinet. Non, ce n'est pas Belladone. Je sais que je t'avais dit qu'on devait travailler ensemble ce soir toutes les deux, mais là, je crois qu'elle n'est pas disponible. Pas là, en fait, mais je crois que j'ai une petite idée de l'endroit où elle pourrait être. Et ça va pas te plaire. Non. Non, non, je pense pas, Claude. Mais tu vas comprendre, j'en suis certaine. Donc, avant de me rejoindre sur place, il faudrait que tu passes dans une animalerie et que tu ramènes 3 grosses muselières. Mais des solides, hein ? Les plus solides et les plus grandes que tu pourras trouver. Et puis passe dans une boucherie et achète 7 ou 8 kilos de viande bien saignante. Oui, pour nourrir les chiens. Enfin, le chien. Oui, il n'y en a qu'un. Pourquoi 3 muselières ? C'est que... Comment te dire ? Il se trouve que c'est un chien à 3 têtes qui squatte le fauteuil de Belladone. Et vu comment il a mâchouillé le bureau, je crois que nous avons intérêt à bien le nourrir pour l'amadouer. Oui, c'est ça, ça recommence.
C'était Bring Me to Life, l'épisode final de la première saison des consultations extraordinaires de Belladone Mercier, psychologue des dieux. Avec les voix de Germain Huc, Anubis, Corinne Jacquet, Belladone Mercier, Monique Mazarguil, Adélaïde Chamberlain, David Ourco, Carl Gustav von Schöffel, Lucas Bertrand, Claude Minkowski, Emmanuel Bost, Martine Trillion. Et avec la participation exceptionnelle de Xavier Fouché dans le rôle de Toth, Hélène Huc dans le rôle d'Isis, Arnaud Dubourg dans le rôle de Horus, Elena Amery dans le rôle de Sekhmet, Anne Villa dans le rôle de Hathor, Aubin Pardinia dans le rôle d'Osiris, Hugo Pardinia dans le rôle de Setek, et avec les voix de Marie-Gaëlle Aubry, Meitou Setek, Aliénor Rajad, Paddy Menipet, Sandrine Rappenecker, Pachérimine, Germain Huc, Eudaimonis. Correction et conseil clinique par Sandrine Rappenecker et Emmanuel Ducongé. Musique par L'Auguste Paternel. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que les autres consultations extraordinaires de Belladone Mercier sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur dekai-deplume.fr. Si vous avez apprécié cette écoute, vous pouvez prolonger le plaisir en découvrant un peu plus l'univers qui entoure cette histoire ainsi que les coulisses de sa production sur le site dekai-deplume.fr ou sur Patreon pour en soutenir la création. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette aventure. Lorsqu'il sera temps, les consultations extraordinaires de Belladone Mercier et Adélaïde Chamberlain, psychologue des dieux, reviendront.